France Inter. .fr.
Bonjour, Émilie Loiseau, la chanteuse, compositrice et interprète à l'univers poétique et onirique, est l'invitée de Vous avez dit classique aujourd'hui jusqu'à 17h. Aventurière de la voix, des sons et du spectacle, Émilie Loiseau est cette chanteuse franco-anglaise qui chante dans les deux langues selon ce qu'elle a à dire, alternant voix de tête presque soufflée à voix de poitrine venant comme d'une autre elle-même. Émilie Loiseau aime les expériences, les nouveautés, les surprises et surtout que ses chansons ne se contentent pas d'être des titres, mais des histoires, des tableaux. Elle vient de signer un disque Mona, spectacle aussi musical qui tisse le fil entre son grand-père marin rescapé de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui centenaire, 101 ans même je crois, et Mona, enfant née vieille et au visage fripé, qui finira par se noyer intérieurement d'avoir trop bu d'eau. Elle est avec nous pendant une heure, car c'est en apprenant la musique qu'elle est devenue chanteuse. Pianiste de formation, elle compose et écrit ses chansons. Nous avons donc une heure pour savoir à travers quelle musique elle a grandi, évolué, tendu vers ce qu'elle est aujourd'hui. Bonjour Émilie Loiseau.
Bonjour.
Aussi loin que vous remontiez, quand on lit un peu vos choix musicaux d'aujourd'hui, alors ça va aller de Schubert à Bach, en passant par Fauré, Reich, Mahler, Schumann... On sent bien que la musique est présente depuis toujours.
Oui, c'est depuis toute petite, mais mes parents écoutaient beaucoup de musique. J'ai un parrain qui est pianiste, donc j'ai grandi avec ça. Et puis j'ai une professeure de piano incroyable, toute gamine, à 5 ans et demi. Donc elle m'a transmis
c'était
énormément de choses.
Je
suis pas tombée sur la prof qui vous dégoûte et donc vous arrêtez, puis vous reprenez. Au contraire, j'ai tout de suite eu quelqu'un de passionné, de joyeux. Donc j'ai effectivement su lire les notes avant les mots.
Alors, aussi, ce que je trouve très joli, c'est que vous racontez qu'enfant, vous écoutiez votre mère passer sur la platine disque les moments musicaux de Schubert, interprétés par Richter. Vous pouvez raconter ces moments, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très poétique et visiblement qui s'installe très profondément en vous avec ça.
Oui, ma maman ça a été elle mon passeur pour la musique classique. Mon père a été un passeur de plein d'autres choses. Et elle mettait, c'était en début de soirée, ce disque, quand c'était l'hiver, il y avait un feu dans la cheminée, dans cette vieille grange, une petite ferme en Seine-et-Marne. Et je me souviens du sol en tuiles, en pierre, avec un tapis dessus, donc c'était pas très très confortable,
mais il y avait
ce grand coussin rouge qui devait faire presque ma taille, sur lequel je m'allongeais. Et je me souviens qu'il avait une tache d'encre, un endroit d'ailleurs bleu qui était un peu hypnotique. Et elle mettait ça et j'adorais l'idée que j'allais m'endormir là et que donc j'aurais pas à vivre ce moment de on va se coucher. Et donc j'aimais bien accentuer un peu cet endormissement, quitte à le simuler un peu et du coup qu'on me mette au lit délicatement en disant chut.
Alors, des moments musicaux composés à la fin de la vie de Schubert et interprétés par un pianiste qui abordait la musique comme la vie, hein, Richter, curieux, gourmand, en essayant toujours de mieux la comprendre et la connaître, cette musique. Et c'est peut-être sans doute pour cela que c'est l'un des pianistes du XXe siècle qui a le plus enregistré de morceaux. Il y a Glenn Gould et il y a Richter. La musique était le but de son existence. Alors, pour démarrer en musique et dans la musique avec vous, Émilie Loiseau, ça me paraît parfait. On va écouter le moment musical allegro moderato en fa mineur, celui qu'on appelle l'air russe. Thank you. l'Allegro moderato en fa mineur des moments musicaux de Franz Schubert, interprété par Svatoslav, j'arrive jamais à dire, Richter.
C'est vrai que c'est difficile.
C'est pas simple. Pour commencer avec vous, Émilie Loiseau, alors vous faisiez semblant de dormir en écoutant ces pièces, sans dormir en écoutant de la musique, ça reste un moment magique pour vous ?
Ça reste un moment magique. Il y a une musique, il y a certaines musiques, et Schubert en fait partie, Bach, Monteverdi, il y a des musiques qui rassemblent en fait, qui font qu'on se retrouve, qu'on peut être en contact avec soi-même, en communion avec soi-même, parce qu'il y a des musiques par contre qui sont tellement intenses ou qu'elles nous transportent dans des sphères qui nous mettent un peu dans tous les sens, qui nous éparpillent. Mais ces musiques-là, oui, c'est vrai que c'est ces musiques qui rassemblent, je trouve que c'est une manière de s'endormir absolument. Idéal.
Alors on va continuer de s'endormir parce qu'on va écouter une pièce de Schumann, Wiegenlied, qui est une berceuse pour enfants. J'ai lu que votre rapport à Schumann était quasiment passionnel au moment de l'adolescence.
Ouais.
Pourquoi cette passion pour ce compositeur ?
Je ne saurais pas vraiment l'analyser. J'ai toujours été absolument fascinée par la dualité en fait. Et plus tard dans mes études de philo, c'est aussi finalement un sujet qui m'a beaucoup intéressée chez Schopenhauer, dans la philosophie indienne aussi.
Et parce qu'il était en effet bipolaire.
Il était bipolaire et oui effectivement. Et puis dans l'utilisation des personnages de Zébus et Florestan, de cette mythologie de personnages doubles qu'il a été cherché aussi dans la littérature de Jean-Paul, je crois qu'il avait écrit comment il s'appelait ce livre, je ne sais plus, mais ce personnage absolument joyeux et extraverti et l'autre beaucoup plus sombre, et ça m'a toujours fasciné ça, et je sais pas trop l'analyser, mais dans Schopenhauer c'est pas du tout la même chose, mais voilà, le monde de l'image, du sensible, et celui de l'être profond, enfin tout ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Donc je crois que chez Schumann il y avait ça, et puis ensuite dans sa musique il y a quelque chose, je sais pas, peut-être qui touche à ce moment de l'adolescence où on est transporté par des émotions à la fois très intérieures et parfois très très extraverti. Il y a ça chez lui. Il y a cette constance de la répétition que j'aime beaucoup. Il y a toujours des reprises en fait dans Schumann. J'adore ça. Et puis cette capacité d'un seul coup d'être dans quelque chose de beaucoup plus épuré, comme les scènes d'enfance où on est là dans une espèce de légèreté tranquille, mais faussement tranquille. Voilà. Toutes ces choses me touchent.
Pour l'instant, on va écouter Schumann dans ce Wiegenlied qui invite à dormir. Et dans lequel on l'entend dans cet aspect apaisé et calme et serein. Alors c'est une transcription faite par Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion. Vous allez voir, c'est magnifique. J'attire votre attention sur la harpe. C'est extrait de l'album Rheinmädchen qui est sorti chez Harmonia Mundi, Les Filles du Rhin, par l'ensemble Pygmalion et sous la direction de Raphaël Pichon. Un Wiegenlied de Robert Schumann avec Emmanuel Cesson à la harpe et l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. Une transcription faite par Vincent Manac et qui vous a plu, ouais, je crois, Émilie Loiseau.
Je m'endors tout de suite. Non, c'est magnifique, c'est somptueux.
Ça fonctionne immédiatement. Et alors, justement, pour reprendre ce que vous évoquiez tout à l'heure, les scènes d'enfance, quand Robert Schumann les a composées pour Clara, qui deviendrait plus tard sa femme, il lui a écrit « Tu prendras sans doute plaisir à jouer ces petites pièces, mais il te faudra oublier que tu es une virtuose. Il faudra te garder des effets, mais te laisser aller à leur grâce, toute simple, naturelle et sans apprêt. » C'est un peu comme ce qu'on vient d'écouter. Mmh. Est-ce que c'est aussi ça, cette façon de savoir être aussi simple que cela qui vous plaît chez Robert Schumann?
Je crois que c'est ça qui me touche le plus, et l'utilisation fréquente du langage de l'enfance, de ce champ lexical-là. Dans ce qu'il écrit. Oui, j'adore sentir que dans le foisonnement intérieur et de l'inspiration d'un compositeur ou d'un artiste, il y a d'un seul coup l'envie de retirer juste l'essence et de ne laisser qu'elle. Je suis toujours, même en peinture, beaucoup plus touchée par les croquis que les œuvres finies, les études, quoi, ce qui permet d'en arriver à l'œuvre sublime et parfaite. Je suis plus touchée par les esclaves de Michel-Ange que par le David, quoi.
Parce que c'est le premier jet qui est.
Oui, je crois que. Puis j'avais une maman qui était peintre et qui avait un mal infini à finir ses toiles. Donc il y avait toujours comme ça quelque chose de posé sur la toile qui semblait aller vers l'infini, en fait. Et je crois que dans le geste, je m'éloigne un peu de la question
non,
de Schumann,
que
mais
ça
je trouve
ça
qu'il y a dans l'œuvre pas finie, il y a une forme d'essence. Et dans le croquis, il y a la base de l'inspiration, là, ce qui nous.
Et pour vous, ces scènes d'enfance, ça serait quelque chose de l'ordre du croquis, Émilie Loiseau?
Non, oui, enfin, c'est-à-dire que c'est le croquis à l'inverse. C'est-à-dire c'est quand on a tout enlevé. Il reste ça. Et je crois que c'est le rêve d'enfance, et c'est le retour à l'enfance, et c'est ce qui nous a fondés, c'est notre tendresse, c'est notre amour pur, notre naïveté. Je crois que c'est
alors
ça.
L'enfance est très présente, hein, en tout cas dans votre dernier album, Mona. On va écouter ces scènes d'enfants. La première, qui est celle des gens et pays étrangers, qui est présente, je crois, dans un de vos spectacles.
Dans l'album, dans le disque et la tournée qu'on a faite du piano cello, oui, qu'on a tourné un piano violoncelle avec Olivier Kunduno, une série de mes chansons, et on commençait et on finissait par ça.
Elle est ici interprétée par Martha Argerich. Les scènes d'enfants, Vom fremden Ländern und Menschen, interprétées par Martha Argerich au piano, des pièces, des scènes d'enfants de Robert Schumann, qui nous emmène avec vous, Émilie Loiseau, dans ce monde de l'enfance qui est le vôtre, notamment dans Mona.
Vous avez dit classique? Elsa Boublil, sur France Inter.
Quel drôle de projet ce disque Mona, Émilie Loiseau. Je dis drôle parce qu'effectivement, vous faites le lien entre un vieux monsieur, votre grand-père, je pense, qui a 101 ans donc aujourd'hui, et cet enfant qui s'appelle Mona, qui naît avec un visage tout fripé. Et en fait, ce bébé a 73 ans. Comment vous est venue cette idée d'un bébé vieux?
Ah, je suis étrange, je suis bizarre. Je voulais surtout parler de deux naufrages, en fait. Le naufrage de ce bateau de la Navy avec ce jeune marin qui était mon grand-père, qui écrit des lettres d'amour incroyables à sa femme, alors que le monde est fracturé par l'arrivée du nazisme et qui, en même temps, il attend un bébé, donc tout est devant, et en même temps, il a 25 ans, il s'engage sur un bateau qui est coulé par les Allemands. Donc ça, cette histoire-là d'un naufrage dont, effectivement, il ressort vivant. Et de cet enfant, cet enfant qui naît vieux et qui très vite, qui est à la fois un enfant drôle, punk, qui naît déjà blasé quelque
dont
part.
Dont l'âme est vieille, en fait.
Dont l'âme est vieille et qui n'a plus aucune illusion et qui passe son temps à crier comme un Yoko Ono en plus petit. Et qui ensuite est diagnostiqué psychotique et donc qui fait son arrivée assez fracassante et désespérée dans l'univers des hôpitaux psychiatriques et de la chimie et des diagnostics incessants. Et c'est une espèce de fable farce un peu caustique sur cet univers-là, sur cette maladie qu'est la psychose, sur son impossibilité à lui trouver une case, sur l'impossibilité d'un diagnostic réel. Dont je voulais parler de la folie, je voulais parler du désespoir, de ça, et en même temps du foisonnement de vie qu'il y a, parce que j'ai dû accompagner ma maman dans cette traversée-là, puisque cette psychose a pris le pas sur ce qu'elle était, et forcément, quand on traverse ça, on rencontre tout un tas de choses terribles qui nous laissent seuls, désespérés, mais en même temps, ça fait partie de la vie. En même temps, on est tous entre équilibre et déséquilibre, et on a la sensation très vive à des moments qu'en fait, on pourrait à un moment donné être attrapé par cela. Et il y a des moments extrêmement cocasses et extrêmement drôles, extrêmement vivants. Il y a une lucidité incroyable aussi. Il y a des choses très, très belles malgré leur dureté. Et je trouve que j'ai constaté que c'était tellement tabou, en fait. Ce sont des gens, des maladies qu'on essaye de mettre camoufler dans une case, de cacher, dont il est difficile de parler. Parce qu'on est tous très démunis, et les médecins aussi, face à ça.
Est-ce que c'est pour ça que vous chantez dans les deux langues, pour peut-être parfois éviter d'être frontal? En tout cas, vous chantez en anglais et en français. On va écouter le titre I once was a drowning man. J'ai été un homme qui coulait, en fait, il y a longtemps. C'est certainement une référence à votre grand-père. Voilà. Deuxième titre de cet album, Mona, donc chanté en anglais pour ce titre-ci.
I once was a drowning man. This is the story of my
extrait de cet album Mona qui est sorti chez Barclay et qui... Non ?
Polydor.
Polydor. Qui sont chez Polydor.
Je vais me faire taper sur les doigts.
Mona, Polydor. I once was a drowning man. Émilie Loiseau, cette chanson donc, que vous chantez en anglais, c'est vrai que passer d'une langue à l'autre, on a l'impression que ça vous permet de pouvoir aborder des sujets différemment, comme si une langue permettait de dévoiler une partie de soi et l'autre une autre partie de soi.
Peut-être, mais alors c'est complètement inconscient. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une musique qui va appeler une langue, en fait. Et parfois, je vais contre nature parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit en français. Mais donc, je crois que c'est très instinctif. Ensuite, certainement qu'il doit y avoir quelque chose d'inconscient, de l'ordre d'un voile qu'on met. Là, dans cette histoire qui est très bilingue dans la pièce en elle-même, cette histoire française de Mona dans l'univers psychiatrique, etc., et les diagnostics médicaux, et l'histoire de ce bateau de la Navy. Donc effectivement, quand il s'agissait de l'histoire de mon grand-père...
Un pilier, un peu, hein.
Voilà, je l'ai abordé en anglais plus souvent, mais quoi que Sombre Printemps, par exemple, est en français et parle de est une lettre qu'il écrit à sa femme, mais voilà. Mais puis là, il nous a vraiment raconté, en fait, à quelqu'un qui l'a enregistré, ce moment, et puis à ma cousine qui a participé à ce spectacle, on a fantasmé un petit peu ce texte, mais il l'a vraiment raconté, sa noyade, et dans ses mots.
Alors, je ne sais pas si vous avez connaissance des Kinder Totenlieder de Mahler.
Ah, si.
Alors, voilà, ça a fait écho en moi avec ces Kinder Totenlieder qui sont 5 leaders pour voix et orchestre, hein, écrits d'après les poèmes de Friedrich Rückert, qui les avait écrits à la suite de la mort de ses deux enfants. Alors, Alma Mahler a beaucoup reproché à son mari d'avoir appelé le destin, puisque plus tard, la fille aînée de Mahler est morte jeune, à 5 ans, de la scarlatine. Toujours est-il que ces Kinder Totenlieder font partie vraiment du répertoire de Mahler incontournable. Et je vous le propose d'interpréter par Christa Ludwig, qui a mis des années avant de pouvoir les enregistrer, parce qu'à chaque fois qu'elle les chantait, elle se mettait à pleurer. Donc, elle a attendu longtemps. On va écouter le Nun seh ich wohl warum. Donc le Flammen, un moment de grande force et nous renvoie à cette mort. J'espère que ça vous plaît quand même.
Oui, parce que... mais j'adore cette œuvre, donc merci, ça me fait grand plaisir.
Tant mieux.
l'un des 5 Kindertotenlieder de Gustav Mahler, interprété par Christa Ludwig. Émilie Loiseau, vous avez été réactive en l'entendant, c'est un morceau que vous connaissez.
Oui, j'ai beaucoup, beaucoup écouté les Kindertotenlieder. Ah, par Kathleen Ferrier plutôt, mais je découvre du coup cette version et c'est super de découvrir une autre version parce que c'est celle-là que j'ai écoutée en boucle. C'est juste bouleversant et on peut faire rien d'autre quand on écoute ça pour le coup. Je parlais des musiques qui rassemblent et de celles qui tourmentent. Celle-là, c'est un mélange des deux, mais on est juste en arrêt quoi.
Mais est-ce que ça vous a pas un peu inspiré inconsciemment par rapport à votre projet Mona?
Alors peut-être inconsciemment. Mais maintenant que vous me le dites, ça me fait réfléchir. C'est sûr que l'enfance a toujours été pour moi un terrain de jeu et d'inspiration, parce que je trouve hyper riche. Je trouve qu'il permet d'aborder la folie par le biais d'une arrivée d'un enfant et de donc tout ce que ça provoque comme cocasserie, la maternité et comme moment en même temps à soi-disant idyllique, et c'est vrai, et c'est bon, tout ça permet du coup d'alléger les choses beaucoup, de mettre une lumière et de parler des choses dures mais en les offrant avec en les portant un peu. Bon, alors là, en l'occurrence, les Kindertotenlieder, le poids est dense.
Et à la fois, il y a quelque chose de très
c'est sublime,
délivrant
ça.
Quand même quand on l'entend.
C'est complètement. Complètement.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors, Émilie Loiseau, parmi vos choix musicaux, il y a Different Trains de Steve Reich, que vous associez à l'adolescence, c'est ça?
Au lycée, plutôt. Oui, c'est l'adolescence en même temps. Vous avez raison. Je voyais
vous
ça presque à l'âge
grave,
adulte,
ouais,
mais en fait,
très
non, pas du tout. J'étais au lycée Racine, en horaire aménagé, parce que j'avais déjà beaucoup au conservatoire et je voulais faire être pianiste. Et donc, j'avais des cours de musique.
Ah, vous vouliez être pianiste?
Ouais, je me destinais vers une carrière de pianiste classique. Et puis, j'ai bifurqué après. J'en ai eu marre de toute cette pression, tout ça. Enfin, ça me correspondait pas. Il y avait un endroit
trigger,
que... Ouais, je crois qu'il y avait, un endroit où je m'exprimais pas sur scène. Et ce cadre me convenait pas, mais ça a été toute ma richesse, c'est ce qui m'a vraiment nourrie jusqu'à pendant longtemps.
Et Steve Reich.
Donc Steve Reich, c'était en cours de musique au lycée, puisque je faisais un bac à 3 à l'époque.
À 3, c'était
donc j'avais des cours de musique. Et voilà, exactement. Et on était tous musiciens finalement, puisque c'était des horaires aménagés à Racine, donc on était tous des musiciens réunis dans une classe. Donc c'était passionnant et on avait une prof passionnante et on a abordé donc ça, Different Trains de Steve Reich. J'ai été élevée avec des parents très très engagés dans la vie politiquement et très passionnés par l'histoire, par les lettres, un père très militant. Et la rencontre d'un seul coup entre une œuvre très différente de musique répétitive, qui était quelque chose que je rencontrais pour la première fois, que je connaissais pas. Et ça m'a déjà fascinée, mais de manière animale. Et puis l'utilisation de sons, de
train,
qu'il avait enregistré, de l'Holocauste et de ces trains, de ces qui embarquaient.
Fait, il avait traversé les États-Unis parce que ses parents étaient divorcés, donc d'est en ouest. Et dans ces Different Trains, il faisait aussi entendre les trains imaginaires qu'il aurait pu prendre si ses parents étaient restés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et cette rencontre d'un seul coup de sens et de son m'a frappé vraiment.
invaded Hungary. I was in second grade.
Sur la sirène, donc, des Different Trains Europe During the War de Steve Reich. C'est le Kronos Quartet qui interprète ce morceau de Steve Reich. Et Émilie Loiseau, puisque vous avez eu ce moment, effectivement, de révélation, vous vous sentiez très grande, mais effectivement, vous vouliez devenir pianiste au lycée. Et puis finalement, vous avez choisi tout à fait autre chose. Vous êtes allée vous inscrire en philo, je crois, à la Sorbonne,
sans doute. Non, à Paris 8.
Paris 8. Et puis, vous avez décidé de devenir chanteuse. Je ne sais pas si vous l'avez décidé, d'ailleurs. Mais comment ça s'est passé?
J'ai donc fait des études de philo et je suis partie à un moment donné. J'allais présenter le conservatoire aussi à Boston. Donc j'étais encore en dents de scie, je savais pas trop, et puis à un moment donné c'était une évidence, il fallait concrétiser par l'envoi d'un enregistrement et je voyais bien que j'avais pas envie quoi. Donc j'ai décidé d'aller faire une école de théâtre à Londres, et parce que c'était mon autre regret.
Il y avait aussi dans la famille une grande actrice.
Voilà, et moi le piano était tellement important que j'avais pas vraiment jamais le temps de faire le théâtre et j'avais très envie. J'ai embarqué un accordéon, j'étais fâchée avec mon piano, j'ai commencé à reprendre des chansons, à en écrire. Je venais de perdre mon papa, donc j'écrivais aussi pour lui, c'était une manière de transcender tout ça. Et voilà, et là il y a eu une évidence, et je crois que la musique m'a rattrapée au travers du théâtre en fait. Je crois que pour moi la chanson c'est vraiment le croisement des deux.
Alors, votre spectacle, Mona, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais est vraiment mis en scène. Il y a quelque chose de théâtral, plus, bien sûr, c'est chanté, mais il y a quelque chose quand même de théâtral. Donc, finalement, vous avez peut-être réussi à faire quelque chose dans un compromis. Mais on va poursuivre notre chemin musical avec le Requiem de Forêt. Et là aussi, on est dans une œuvre qui se devrait d'être religieuse. Or, il était complètement athée, Forêt. Et puis, il a vraiment composé pour accompagner l'enterrement d'un architecte et il voulait pas que ce soit quelque chose de spectaculaire du tout, au contraire très retenu. Vous l'avez choisi pour quelle raison?
En fait, j'ai chanté, c'était ma première expérience de chant et de trance en chantant, c'était du chant collectif et j'étais en musicologie à la Sorbonne, donc avant la philo. Oui. C'était d'accord, là la Sorbonne. Il y avait la Sorbonne quelque part. Et je faisais partie du chœur qui il y avait le chœur et l'orchestre de la Sorbonne sous la direction de Jacques Grimbert. Et c'était une expérience magique, magnifique, qui m'a donné des sensations avec la voix et le corps très fortes. Ouais.
On va mettre le Sanctus, vous chantez avec nous?
Bien sûr.
Thank you.
Le Sanctus du Requiem, opus 48 de Gabriel Fauré, par l'ensemble vocal de Lausanne sous la direction de Michel Corboz, et qui nous emmène vers vos compositeurs, Émilie Loiseau, chérie. En tout cas, c'est amusant parce que quand vous avez préparé l'émission, vous avez dit voilà, j'étais amoureuse de Bach, j'étais amoureuse de Schumann.
J'ai dit amoureuse,
oui.
Mince.
Alors amoureuse, justement, je trouvais ça intéressant. Être amoureuse de compositeurs, ça se formule comment
Je ne sais pas. C'était assez passionnel avec Schumann. Peut-être plus avec le temps, avec Bach. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment caractériser ça. C'est des émotions, en tout cas. C'est vrai que ça parle à la peau, la musique, comme l'amour.
Et alors donc, à ce moment où vous avez croisé plusieurs sens ensemble, la théâtralité, la musique, laisser tomber plus ou moins le piano, prendre le chemin de la direction, est-ce qu'il y avait des musiques que vous écoutiez en particulier ou vous avez laissé tomber complètement la musique classique à un moment ?
Oui, il y a eu un moment, il y a eu vraiment une rupture parce que c'était un choix... C'est une rupture passionnelle, c'était un choix identitaire et en même temps évidemment qu'il y avait une accroche très forte, donc c'était douloureux. Donc j'ai jamais arrêté d'écouter du classique, mais j'ai commencé à écouter plus d'autres choses que je n'avais pas fait parce que j'ai une adolescence, une enfance, adolescence pas volée parce que c'était tellement enrichissant, mais où finalement tout était donné au piano, 6-8 heures par jour de piano, donc plus finalement je suis pas passée par voilà mon groupe de rock dans le garage quoi, du tout. Donc finalement toute ma culture plus rock, elle s'est faite après. Il y avait des choses, j'ai écouté toute mon enfance Dylan, Nina Simone, les Beatles et tout, mais il y a des choses qui sont venues après.
Alors pourquoi Pablo Casals pour interpréter les suites pour violoncelle de Bach ?
Bah là c'est comme Richter.
C'est rock.
C'est comme non, c'est comme Richter. Ça fait partie de mon langage de l'enfance pour le coup. C'est inné au violoncelle. Pour moi c'est Casals. Et il y a voilà au piano c'est Gould. Et bon il y a des choses dont on n'arrive pas trop à se remettre.
Et Bach, vous signaliez que vous aimiez particulièrement le silence dans Bach.
Oui, je crois que je parlais tout à l'heure des musiques qui rassemblent et qui permettent de... Quand on a besoin de silence, il y a des choses qu'on peut écouter quand même. Et je disais tout à l'heure, oui, bah, pour moi, il y a l'Orfeo de Monteverdi, il y a les suites pour violoncelle de Bach, il y a les variations Goldberg. C'est des musiques qui offrent ça, qui offrent un retour vers soi et un moment où on est comme en méditation. C'est important, cette musique-là, c'est tellement important.
Ah ouais, c'est un enregistrement de 1939, Pablo Casals qui interprète la suite numéro 5 de Bach, la gavotte, pour danser un peu tout en se recueillant. Thank you. c'était la voix d'Émilie Loiseau sur Jean-Sébastien Bach, la suite numéro 5 en ut mineur, la gavotte interprétée par Pablo Casals. C'est forcément la musique fait parler, donne envie de parler Émilie Loiseau, et ça vous renvoie aussi à l'enfance et à ses heures de travail et de piano.
Oui, c'est sûr que j'y ai passé des heures devant mon piano, c'est ce qui m'a fâchée à un moment donné, parce qu'il y a une part d'enfance un peu qui a été prise par ça, qui a été kidnappée par ça. Mais c'était en même temps, du coup, la musique est devenue quelque chose de tellement instinctif grâce à cette période-là aussi, puisqu'elle est là depuis que je suis toute petite. Donc,
mais c'est derrière votre piano que vous composez, j'imagine.
Oui.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Mona, sortie chez Polydor, donc c'est un projet donc musical qui est une sorte d'histoire en chanson qui nous trimballe entre deux vies parallèles et que vous avez décidé de mettre en scène. C'est Julie Anne Roth, la comédienne, qui met en scène ce spectacle, Émilie Loiseau. Qu'est-ce qu'il y a de théâtral? Comment théâtraliser ces deux univers? C'est pas simple.
C'était pas simple, et en même temps ça s'est passé tellement de manière organique entre nous tous. Il y a une petite bande comme ça qui s'est formée entre vidéaste, metteur en scène, comédien danseur, et ça a donné cet objet un peu hybride. Le disque est vraiment un disque de chansons. J'ai envie de le répéter parce que on n'a pas besoin de connaître cette pièce de théâtre pour rentrer dedans.
Non, au contraire. J'ai pas vu le spectacle. Voilà, on se laisse transporter par.
Voilà, il y a ça que j'ai envie de dire. Et puis que c'est un disque lumineux en fait, malgré toutes les thématiques dont il parle. C'est un disque qui cherche la lumière. Et c'est vraiment un disque de assez pop à vrai dire. Mais c'est vrai que il a été écrit comme une BO. Il a été écrit pour nourrir une narration. C'était ça qui m'intéressait, c'était d'écrire une pièce de théâtre et de devoir, et pour que mon disque soit écrit, pour servir cette narration. C'était changer un peu la manière d'écrire, renouveler l'oxygène, qui est un cadre, qui est du coup que chaque chanson devienne nécessaire pour faire respirer ou pour au contraire faire exploser un moment théâtral. Et voilà, donc c'est vraiment une pièce de théâtre. C'est pas une comédie musicale, c'est pas un opéra. Il y a de la musique dedans. Il y a des moments où les personnages sont obligés de chanter pour respirer. Il y a des moments où juste.
C'est votre cas, vous ?
Oui. Je crois que c'est pour ça en fait. Je crois que c'est une manière de respirer, de continuer de respirer ou de respirer tout court. Oui.
Alors on va vous écouter aussi sous forme de compositrice, puisque dans ce disque il y a aussi le moment où simplement on entend les ondes battre et la musique respirer en elle-même. Vous êtes derrière, au loin. Voici Les Ondes, le 9e titre de cet album Mona, signé Émilie Loiseau et qui est sorti donc chez Polydor. Morceau Onde, construit sur le principe que vous avez découvert quand vous étiez grande, Émilie Loiseau, Steve Reich. Onde, donc, qui apparaît sur ce disque Mona. Et alors, vous serez en concert le 15 juin à la Philharmonie, le 16 et 17 à l'Amphithéâtre de la Cité de la Musique.
Voilà, mais dans les trois, en fait, sont au même endroit.
À la Philharmonie, d'accord.
Voilà, mais c'est pour Run Run Run, c'est pour l'hommage à Lou Reed, c'est pas pour Mona.
Eh oui. 24 juin, vous serez à la Halle de Paris à Moissac. Là, c'est pour Mona.
Là, c'est pour Mona, tout d'accord. Le reste, c'est pour Mona.
Le 17 juillet au Grand Théâtre de la Rochelle et le 10 novembre à la Cigale. Exactement. Il faut prendre date déjà puisque ça risque d'être vite plein. Merci beaucoup, Émilie Loiseau.
Merci à vous.
À très bientôt et longue vie à Mona.
Merci.
Elle est vieille, mais j'espère qu'elle vivra longtemps.
Je lui transmettrai.
Merci à Marie-Annick Rimbaud, Camille Poux, Jalagui, Claire Destacan et Alexandra Ramos da Silva à la technique. C'était Sandrine Laurent. Demain, nous recevrons la chanteuse, la soprane Karine Deshaies. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission et la podcaster sur le site de franceinter.fr. Et il est l'heure de retrouver Charline Van Hoenacker. Salut Charline.
Bonjour Elsa Boublil.
Vous êtes avec Géraldine Payas, c'est ça?
Exactement. Elle vient nous présenter un nouveau fait. Oui, parce qu'il y a Hippolyte Girardot en chroniqueur. Ah. Et vous savez, c'est le petit monde du showbiz, ils se connaissent tous. Donc voilà, ils se font la bise, tout ça. Bon, vous savez, écoutez, je laisse vivre les gens dans le studio.
Pendant ce temps-là, on mettra un peu de pub pour qu'ils s'embrassent fort.
Voilà. Allez, merci Elsa.